tout le monde. On va recommencer. On a déjà un petit peu de retard. On a 20 minutes de retard, donc ce serait important qu'on commence. Avant d'introduire notre premier conférencier, j'ai quelques messages d'intérêt à vous faire concernant la formation continue. Donc, pour les avocats et les médecins, c'est possible d'avoir des attestations de formation, des certificats de formation. C'est possible pour tout le monde d'ailleurs, là. Vous pouvez tous avoir un certificat à la table d'inscription. Par contre, pour les avocats, c'est important d'aller s'identifier, d'aller dire que vous êtes avocat. La personne à la table d'inscription va prendre votre nom. Par la suite, ils vont vous transmettre par courriel votre certificat de formation. Il n'y a aucun frais pour ça. Pour les médecins et les infirmières, vous allez avoir un certificat comme tous les autres participants. Par contre, si vous avez besoin d'une lettre personnalisée de la Faculté de médecine de l'Université McGill, vous devez aussi aller vous identifier à la table d'inscription et débourser un coût de 20 $. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, je vous rappelle aussi que chaque conférencier doit déclarer ses conflits d'intérêts. Bien, je me présente, Claudine Fecteau, je suis conseillère à l'éthique à la Direction de l'éthique et de la qualité au ministère de la Santé et des services sociaux, et je pense que j'ai aucun conflit d'intérêts. Donc, cet après-midi, le sujet qui va être abordé, c'est la protection de l'intégrité des participants. Donc, on parle encore d'intégrité, mais plus d'intégrité scientifique en tant que telle, plus la protection de l'intégrité physique et psychologique des participants à travers les modalités du consentement qu'ils vont donner. Notre premier conférencier, c'est Michel Giroux. Michel va venir mettre la table d'un point de vue plus théorique sur la question de la littératie. Donc, Michel est avocat et docteur en philosophie. Il est directeur de l'Institut de consultation et de recherche en éthique et en droit. Il est chargé d'enseignement et responsable du volet éthique, professionnel et juridique dans le programme de doctorat en médecine de la Fac de médecine de l'Université Laval. Et il donne aussi le cours éthique et santé publique à la même faculté. Il est consultant en éthique et membre de quelques comités d'éthique clinique et de la recherche. Et il préside le CER du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Il est finalement vice-président du comité de biovigilance du Québec. Donc, Michel.
Bonjour Madame, bonjour Monsieur. C'est un plaisir de m'adresser à vous. Vous êtes un beau groupe, vous êtes nombreux, vous semblez en état de réceptivité absolument extraordinaire. J'espère évidemment, comme mes deux collègues, Bruno et Pierre, que vous allez aimer ces deux journées, que ça va être quelque chose comme discussion qui va pouvoir remplir un petit peu vos pensées, meubler les bonnes idées qu'on va être capable peut-être de développer un peu ici. Le sujet dont je vais vous parler, c'est la question de la littératie. Il se peut fort bien que pour quelques-uns d'entre vous, le mot « littératie » soit absolument nouveau, que vous vous disiez « qu'est-ce que c'est ça, que ça mange en hiver », comme on dit, et on va le développer, on va en parler. Je vais vous le présenter d'un point de vue un petit peu théorique, mais avec des petites pointes de pratique aussi, parce que sinon ça n'aurait pas de résonance concrète. Et puis après moi, d'autres présentatrices vont venir vous en parler d'une façon qui est plus concrète. Je vais vous parler d'un événement qui est survenu au troisième colloque sur l'éthique de l'intégrité, donc on remonte de quelques années, et qui a été un événement qui a été déclencheur dans mon esprit, qui m'a amené à me poser cette question-là. Il y avait un débat, c'était véritablement un débat, puis ça n'avait pas été organisé, jamais Bruno et moi, on avait pensé à quelque chose de semblable, ça aurait été trop diabolique. Entre deux groupes d'infirmières. Puis c'était un débat bien, là, au micro, civil, tout ça. Mais c'était sur comment on s'y prend avec un participant potentiel par rapport au formulaire de consentement. Et il y avait des infirmières qui disaient ce qu'on doit faire, c'est lire le formulaire au grand complet avec la personne en expliquant au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui disaient, voyons donc, on peut pas faire ça, ça tient pas debout. Après 5-10 minutes, vous savez bien, ils vont arrêter de nous écouter. C'était pas bête comme réaction, mais les infirmières qui tenaient à lire le formulaire de façon entière disaient « Mais la personne signe, j'ai lu ce formulaire. Comment on fait pour passer à côté? » Puis les autres infirmières répliquaient « Je l'ai lu, puis je l'ai pas compris. Est-ce qu'on ajoute ce petit bout de phrase-là? » Et ça a germé dans ma tête. Je sais pas ce qu'il faut faire. Tu sais, quelqu'un me dirait « Vous pensez quoi? Comment faudrait... » Bonté divine. Avec les formulaires complexes, je ne sais pas trop quoi faire, là, bien sûr. Les formulaires demeurent une bestiole qui est compliquée. C'est vrai que c'est écrit par des avocats, ça ne nous aide pas. Et j'en suis un, là, donc j'en parle très, très librement. Si je parlais contre les notaires, ben là, les gens diraient qu'ils parlent contre les notaires, mais les avocats, c'est ma gang. Il y a une chose qui a été une leçon à un moment donné, ça m'avait amené à réfléchir, mais ça m'avait fait rire aussi. Les avocats qui sont dans la salle savent très bien de quoi je parle. On reçoit un petit bulletin qui s'appelle Preventio. On lit tout ça. C'est très, très coloré avec les petites caricatures. Puis c'est cute. Vous savez de quoi je parle. Puis ça, c'est des conseils qui sont donnés aux avocats. Et une fois, ce qu'on nous disait dans Preventio, à nous, les avocats, c'est quand vous écrivez un texte, assurez-vous donc de comprendre ce que vous écrivez. J'en revenais pas, mais c'est vrai comme je vous parle, puis là, je me disais, bon, t'es divine. Puis là, les formulaires de consentement, c'est comme une hantise, ça me revenait. Je vais vous raconter un fait, une évaluation qui va peut-être vous étonner un petit peu, puis ensuite, ça va être notre point de départ, on va avancer. Je vais vous parler d'un phénomène qui s'appelle analphabétisme fonctionnel. Je vais vous donner des chiffres. Vous allez être absolument étonné, vous allez vous dire « il a bu ». J'ai pas bu. Mais ce soir, vous prendrez Google, puis vous ferez « analphabétisme fonctionnel Québec ». Vous allez voir, toutes les choses que je vais vous dire sont là, les mêmes chiffres. Alors, prenons le Journal de Québec ou le Journal de Montréal, parce que ici, on est à Montréal, puis je veux pas commettre d'impair. Vous êtes une majorité de Montréalais, j'imagine. Alors, on prend les pages sportives du Journal de Québec ou du Journal de Montréal, une description de match de hockey, par exemple. Alors, il y a des gens qui vont lire le texte, qui vont comprendre les mots quand les mots sont détachés, mais qui ne comprendront pas le fil de la description ou de l'idée qui suit d'une phrase à l'autre et d'un paragraphe à l'autre. Ces gens-là peuvent lire sur une licence, vous avez déjà vu ça, « J'aime ma femme », on sait ce que ça veut dire, mais lire un texte suivi, en ayant une compréhension minimale, la réponse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ça. Dépendamment des enquêtes, pour le Québec, le chiffre, c'est, ou bien, c'est toujours les deux chiffres qu'on voit, ou bien 49 % de la population, ou bien 51 % de la population. Je répète, je n'ai pas bu d'alcool, parce que là, il y a plein de gens, voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? C'est le chiffre. Il y avait hier, dans la presse, un article sur le niveau de littératie des universitaires canadiens et québécois. Ils sont au stade 2, alors que le stade maximal, c'est 5. Et la même réaction du journaliste qui dit « j'en croyais pas mes yeux, je suis furieux de ça ». Mais that's it, c'est la réalité. Ça signifie que dans le formulaire de consentement, dans les explications qu'on donne, il y a peut-être quelque chose qu'on manque si on ne s'assure pas que la personne a bien compris. Le phénomène de la littératie dont je vais vous parler s'applique d'abord, et les premiers professionnels qui s'y sont intéressés, les premiers professionnels de la santé, ce sont les pharmaciens, à propos de la capacité des gens de comprendre la prescription qui est écrite sur le petit pot de pilule. Et encore aujourd'hui, les gens qui font de la recherche là-dessus sont d'abord des pharmaciens, des éducateurs, mais des pharmaciens d'abord. C'est vraiment la catégorie des professionnels de la santé qui s'y intéressaient. Alors, je vais vous parler de la littératie d'une manière générale, ensuite dans les rapports du type de la relation d'aide, puis ensuite en recherche. Puis là, ben, je m'étais prévu tout un programme, je suis supposé me faire plaisir, mais je m'aperçois que je vais me faire moins plaisir que ce que je pensais, il va falloir que je roule un peu plus vite, mais c'est correct, là, on a le droit de manger. Je vais essayer d'être vivant parce que vous êtes dans un état qui s'appelle mélancolie digestive. La première fois que j'ai entendu l'expression, je l'ai trouvée drôle, puis je trouvais que ça me ressemblait, là. Mais j'ai mangé léger, je me dis, il va y en avoir au moins un qui va être réveillé, puis moi-même pour vous en parler. Alors, on y va. Il y a un point qui est important aussi. Vous allez voir, là, il y a de la philo dans l'affaire. C'est clair. Mes fondements, ils sont philosophiques. C'est quelque chose qui est très, très important. Il y a, bien sûr, ce qu'on voit dans la relation d'aide, ce qui est pratique, concret. Mais cette idée-là de littératie, il y a des enjeux qui sont philosophiques, nettement. Puis, je veux pas passer à côté. C'est important de bien les situer. Alors, les objectifs de mon exposé, c'est une définition de la littératie en général, de quoi on parle, mais aussi de la littératie en santé. Il y a quatre éléments constitutifs de la littératie qu'on a mis au point dans nos travaux à l'Institut de consultation de recherche en éthique et en droit à Québec. On a fait des travaux sur 4 ans là-dessus, et puis on a trouvé ce qu'on pense être des bons indicateurs. Comprendre l'influence de la littératie sur l'exercice de l'autonomie personnelle et sur un juste accès aux soins. C'est plus général que la recherche, bien sûr, mais ensuite réaliser l'impact de la littératie sur la participation à la recherche en santé. C'est toute la différence entre avoir un monsieur ou une madame qui comprend ce qui se passe, puis avoir un monsieur ou une madame qui comprend pas ce qui se passe, qui peut pas donc adhérer au projet de recherche. Quand on a conçu la journée d'aujourd'hui avec Bruno et Pierre, ce qu'on se disait, c'est il faut viser la qualité. Il faut viser une amélioration de la qualité, ce qu'on a appelé ce matin la plus-value dans la qualité, ou la plus-value tout court. C'est terriblement important. L'idée d'aborder la littératie aujourd'hui, ça vient pas par hasard, ça vient de ce qu'on constate en termes de compréhension chez les participants, mais c'est aussi un petit peu un défi qui vous est lancé de vous en préoccuper, puis de voir des moyens pratiques concrets pour améliorer la compréhension des participants, leur compréhension des textes, en ayant des textes peut-être plus compréhensibles, la compréhension des explications verbales. On va parler des deux aspects, les textes et les explications verbales, des personnes qui vont me suivre cet après-midi vont vous en glisser un mot. Le plan, c'est notre intérêt pour la littératie, je ne ferai pas le tour de ça, c'est simplement de rappeler l'événement où il y avait les deux groupes d'infirmières. C'est absolument captivant, j'aimais ça entendre ça, mais j'ai encore pas la réponse à leurs questions. La notion de dignité humaine, est véritablement reliée à la présence de la raison chez l'être humain. Qu'est-ce que ça vient faire avec le langage? Littératie en éducation, en santé, les quatre éléments constitutifs. L'autonomie, la littératie, la justice et la littératie, puis la conclusion qui va porter, bien sûr, sur le contexte de recherche. Ce dont je vais vous parler concerne l'éthique fondamentale, l'éthique première avant d'être en éthique appliquée, avant d'être en déontologie de la recherche. Il y a 3 concepts en éthique dont je vais vous parler cet après-midi. Le premier, c'est la dignité, le concept de dignité humaine. Le deuxième, celui d'autonomie. Et puis ensuite, celui de justice, parce que ces concepts-là sont fondateurs dans notre préoccupation pour la littératie, pour la compréhension de la personne qui accepte de participer à un projet de recherche. Première citation, Emmanuel Kant. Ça va rappeler des souvenirs à quelques-uns d'entre vous, peut-être de leur cours en philo, éthique et politique. Ah, puis là, je vois des visages qui font oui. Ah, puis il y en a de tous les âges. Ben, ah, je suis content de ça. La citation est infiniment célèbre, c'est une des idées qui se trouve au fondement des droits de la personne, bien sûr. Alors, je la lis. « L'humanité elle-même est une dignité. En effet, l'homme ne peut être utilisé par aucun homme, ni par d'autres, ni simplement par lui-même, par soi-même, on ne peut pas se faire n'importe quoi, simplement comme moyen, mais doit toujours être traité en même temps comme fin. Et c'est en cela que consiste précisément cette dignité. » La personnalité humaine, dotée de l'esprit, grâce à laquelle il s'élève au-dessus de tous les autres êtres du monde, qui ne sont point des hommes et peuvent donc être utilisés. L'idée, c'est que notre dignité, ce qui la caractérise, quand on a enlevé tous les accidents, tout ce qui est peut-être un peu secondaire, ce qui la caractérise, la dignité humaine, c'est la présence de la pensée, la présence de la raison. Mais toujours est-il que ça existe et que ça confère à chacun, chacune d'entre nous, un statut particulier, je suis presque dans la politique, mais un statut particulier par rapport aux autres êtres naturels qu'on connaît. Ici, on va aller faire un tour du côté de Cicéron, un auteur que j'aime beaucoup. On est avec un avocat de l'Antiquité, mais avocat philosophe, un personnage très éloquent. Ses plaidoiries sont très connues. Et Il va nous parler de deux choses. Il va nous parler de ratio, l'intelligence, et oratio, le langage, le discours. C'est-à-dire que l'intelligence humaine est liée à la capacité de l'être humain d'avoir un discours, un langage aussi sophistiqué que le nôtre. Puis là, je le lis aussi. Elle, la raison, ratio, lie les hommes précédemment isolés dans leur sauvagerie par le doux lien du langage, oratio. C'est pour ça qu'on dit ratio et oratio. Je le dis en latin, et. Là. Puis ça fait, c'est charmant, tu sais, ratio et oratio. Dans un cocktail avec le petit vin, tu sais, ratio, ça. Il me semble, moi, je le sais très volontiers. La pensée représente aussi, par un petit nombre de signes qu'elle invente, la totalité des sons qui semblent infiniment divers et fait ainsi que nous puissions nous entretenir avec les absents, signifier nos volontés, conserver le passé dans des documents écrits. Le langage parlé, le langage écrit, c'est une manifestation de la dignité de l'être humain. On n'est pas loin de la dignité de l'être humain, c'est une manifestation de cette dignité-là. Tout ce que je viens de vous dire ne signifie pas qu'une personne qui est analphabète total n'est pas un être humain. On se comprend bien, là, j'ai pas dit ça, bien sûr, parce que si c'était interprété comme ça, j'aurais, je sais pas ce que je répondrais, je dirais c'est pas vrai. Les armes de l'homme, c'est de Alain, un philosophe français, mais là, on est à l'époque contemporaine, qui dit, si donc on posait en principe que penser, parler et écrire sont les armes de l'homme. Un être humain qui se dote des armes propres à sa dignité, parle et écrit, puis bien sûr est capable de penser. Il y a un passage qui est très, très intéressant ici sur ce que c'est qu'un analphabète fonctionnel. C'est d'Alain encore. C'est tellement amusant, mais c'est tellement une description qui est encore valide aujourd'hui. Et vous lisez des ouvrages de pédagogie contemporaine maintenant sur ce type de situation-là d'analphabétisme, puis c'est les situations qu'ils décrivent. C'est drôle. J'ai connu un illettré d'âge militaire, donc un tout jeune homme, 18-20 ans, qui avait l'ambition d'apprendre à lire et qui parvint péniblement à épeler. Comme un de ses camarades lui demandait « Que dit ton journal? » Il répondit « Je n'en sais rien, je lis. » C'est qu'il était tout occupé à traduire des lettres en sons. Cela occupait toute sa pensée. L'analphabétisme, c'est ça, c'est de lire ce qu'on pense être des sons. Je vais aller du côté de l'alphabétisation, puis on va s'approcher tranquillement du concept de littératie. Alors, l'alphabétisation, c'est l'enseignement de la lecture, de l'écriture à un groupe social déterminé. Habituellement, bien sûr, on en parle à propos des adultes. Maintenant, la littératie, il va falloir qu'on définisse ce terme-là. Est-ce qu'il s'agit de l'alphabétisation? Est-ce qu'il s'agit de la scolarisation? Ou s'il s'agit d'autre chose? Quand on a commencé nos travaux, on se disait, ça doit s'apparenter à la scolarisation, la littératie en santé, la capacité d'aller chercher des bonnes informations, de bien se débrouiller, de prendre des décisions intelligentes. Mais à un moment donné, il nous est venu un exemple à l'esprit qui défaisait ça, là, cette pensée-là, que littératie et scolarité, c'est pareil, ou ça s'apparente beaucoup, puis que c'est mesurable. C'est pas vrai. Illustration, vous avez devant vous quelqu'un qui a un PhD en génie électrique, et vous lui apprenez qu'il a un cancer, puis il vous pose des questions, puis vous êtes obligé de répondre des choses qui sont vraiment très déplaisantes à entendre. Votre monsieur est encore PhD en génie électrique, mais sa littératie est dans le plancher. Parce qu'à partir du moment où vous avez dit le mot cancer, il n'est plus là. Puis vous n'avez pas quelqu'un qui a la débrouillardise d'une personne qui est aussi scolarisée, qui est aussi intelligente. Vous avez devant vous un être qui est parfaitement démuni au moment où ça se produit. Ça veut dire qu'il y a une différence très importante entre la scolarisation et la littératie, du côté de la littératie en santé en particulier. Et ce fait-là, ce phénomène qui est observable fréquemment, nous a amené à nous dire, très bien, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent la littératie? On en a identifié quatre, on va y revenir. Donc, c'est l'ensemble des connaissances en lecture et en écriture permettant à une personne d'être fonctionnelle en société. J'insiste sur fonctionnelle parce que dans 3 minutes et 2 secondes, on va être dans une autre diapo où on va parler de fonctionnel en société, mais en relation avec la santé Et là, on va s'approcher de notre sujet. À propos de trois types de textes, les textes suivis, comme un article de journal, les textes schématiques, comme les cartes routières. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont pourris là-dedans? J'ai au moins un monsieur qui a la franchise de le dire. Les autres, vous êtes orgueilleux, vous en parlez pas. J'en ai deux, OK. J'en ai deux. Alors, puis voyez-vous, on a tous nos problèmes de littératie. Moi, devant un rapport d'impôt, je suis un enfant. Puis en droit fiscal, je suis un danger public. C'est clair. Mais ça fait pas de moi un être imbécile. En tout cas, je penserais pas. Mais on est toujours moins bon qu'un autre, là, sous certains rapports, bien sûr. Et puis ensuite, bon, le contenu quantitatif, ce qu'on appelle numératie, le calcul de l'intérêt sur un emprunt. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec ce genre de connaissances. Donc, c'est le seuil de connaissances nécessaire pour être fonctionnel, encore une fois, qui change au fil du temps, puis qui est variable, bien sûr, d'une société à l'autre. Dans le Québec de 1850, je présume que d'être un lettré, c'était moins important que dans le Québec de 2014, bien sûr. Le Canada et l'OCDE, c'est les enquêtes de l'OCDE sur le Canada du point de vue de la littératie. Vous allez être encore surpris, puis tant mieux si j'étonne des gens parmi vous, parce que vous allez vous dire, voyons donc, à l'avenir, on peut être plus attentif à ça. Alors, vous avez des informations sur la place que le Canada occupe. Alors, par exemple, le premier paragraphe, le Canada se classe au niveau de la moyenne de l'OCDE en littératie. Il compte cependant une plus grande proportion de personnes au niveau les plus élevés et les plus faibles de l'échelle. Donc, aux deux extrêmes, on a plus de gens que dans d'autres pays. Ensuite, bon, une proportion, c'est le dernier paragraphe, plus élevée de Canadiens utilisent les technologies de l'information et des communications par rapport à la moyenne de l'OCDE. Alors, on peut se dire, par rapport à l'informatique, on est un peu mieux que d'autres personnes. Par rapport à la santé, les diapos s'en viennent, on va trouver que peut-être on est moins intéressant. Maintenant, santé et développement humain, puis la question d'être fonctionnel en société. Il s'agit de l'article 1 de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Je le lis, le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique, sociale des personnes, d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. Il y a une relation très étroite entre la littératie et la santé, et les deux sont liés au concept de participation sociale, d'être fonctionnel à l'intérieur d'une société à un moment donné. Les gens qui font les enquêtes en santé publique et qui créent véritablement des cartes géographiques sur l'état de santé de la population font une observation qui est connue de plusieurs. Certainement, nombreux d'entre vous, vous en avez entendu parler. C'est l'équation qui existe entre le niveau de santé, le niveau socio-économique, puis le niveau d'éducation. C'est lié, ça va ensemble. Et pour la ville de Québec, par exemple, il y a une différence assez importante de l'expectative de vie entre la haute ville puis la basse ville. C'est très net. Et quand on regarde les cartes des agences de santé publique pour la région de Québec, pour la région de Montréal aussi, le revenu, le niveau de scolarité, l'état de santé sont des variables qui sont reliées les unes aux autres. Alors, c'est pas juste la loi qui exprime cette idée-là, mais ce qui est observable par les officiers de santé publique l'indique aussi. Il existe des déterminants de la santé. C'est un concept qu'on trouve dans à peu près tous les ouvrages de santé publique, c'est-à-dire on peut lire ici un petit peu, là, à chaque étape de la vie, l'état de santé se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs facteurs d'ordre social et économique, par surcroît en interdépendance avec l'environnement physique et le comportement individuel. Ce qui fait qu'une personne est en plus ou moins bonne santé, c'est un ensemble de conditions dans lesquelles elle existe, multipliées par les comportements, bien sûr, que la personne adopte pour elle-même. L'Agence de santé publique du Canada identifie une dizaine de déterminants de la santé, et puis là, on les voit par ordre d'importance. Le niveau de revenu et le statut social, les réseaux de soutien social, l'éducation et l'alphabétisme, l'emploi, les conditions de travail, les environnements sociaux, les environnements physiques, les habitudes de vie, la capacité d'adaptation personnelle, développement de la petite enfance, patrimoine biologique et génétique, services de santé, le sexe et la culture. Le niveau socio-économique, l'éducation, la scolarisation viennent en tête des déterminants de la santé. Alors, peu importe le bout par lequel on prend ça, notre manière de l'envisager, on arrive toujours à ce constat de la relation entre les deux. L'expression « littératie en santé », c'est « health literacy », bien sûr, en anglais. Ça a été inventé en anglais d'abord. Ça valait la peine, en entrant dans ce thème-là, que je vous dise d'où ça vient, juste par souci d'être honnête avec le monsieur, là. Alors, c'est un monsieur Simmons, qui était un Britannique, et lui se proposait d'introduire dans la formation à l'école primaire des préoccupations, des informations, des renseignements aussi, destinés aux enfants par rapport à leur santé. Alors maintenant, là, on va commencer à entrer dans d'autres chiffres qui vont vous étonner. Il y avait mon 49-51 tandreau, et puis ben, j'ai pas fini. J'ai d'autres surprises peut-être, mais qui vont tous dans le sens de mon argument, fait que je suis content. Mais tu sais, j'ai pas trafiqué les chiffres, inquiétez-vous pas, je vous donne ça, c'est facile de mettre le grappin là-dessus. Le fait qu'un plus grand nombre de Canadiens affichent un niveau plus faible de littératie en santé. C'est 60% de la population au Canada qui a un niveau faible de littératie en santé, que de littératie tout court, bien se débrouiller dans la société en général, 48%, suppose une différence entre littératie en santé et littératie. L'idée est toute simple, c'est que la majorité de nos concitoyens arrivent à mieux se débrouiller dans la vie en général que dans la vie à l'intérieur du système de santé ou plus largement à l'intérieur des préoccupations relatives à la santé. Maintenant, on arrive à la définition de la littératie en santé. C'est une définition qui est le fruit de nos travaux. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de gens qui essayent de définir ça. Puis c'est toujours des travaux utiles, là. Il n'y a pas de problème. Mais on va la définir de cette façon-là. Capacité de reconnaître l'existence d'un besoin d'information en matière de santé ou de services de santé, de déterminer l'information nécessaire, de la trouver, de la comprendre et de la traiter en vue d'une décision éclairée. Pour la décision éclairée, il faut faire attention parce que ça se peut que moi, comme patient, je prenne une décision différente de celle que le médecin prendra à ma place. Par éclairée, ça ne veut pas dire une décision qui est la même que celle du médecin. Ça veut dire que je suis normalement informé puis que je décide en connaissance de cause. Il y a une petite phrase que les professionnels de la santé disent, parfois vous avez peut-être déjà entendu ça, à propos d'un patient qui est réfractaire, puis ça me fait toujours rire, on va le faire cheminer. Vous avez déjà entendu ça? Ça veut juste dire, on va le travailler jusqu'à temps qu'il pense comme nous autres. J'ai jamais été capable de l'interpréter autrement, on va le faire cheminer. Alors, quelqu'un dirait ça de moi, je serais très fâché. Je me sentirais manipulé, là, clairement. Alors, ça, c'est un bout de la lorgnette. C'est la littératie en santé définie du point de vue du patient, de l'usager ou du participant à la recherche. On ne l'oublie pas, lui, c'est vers ça qu'on s'en va. Mais il y a la littératie comme préoccupation pour le professionnel de la santé ou pour l'organisation de santé. Est-ce que la littératie, l'accès aux soins, dépend seulement des patients ou bien si les professionnels puis les établissements peuvent faire quelque chose? Là, ici, on est dans le bout des professionnels. Pour les professionnels de la santé et les institutions, la conscience de la variabilité de la littératie pose le défi de fournir une information accessible à l'usager ou au public visé. Le public, je pense aux informations de santé publique. Elle requiert aussi que les professionnels de la santé et les institutions ajustent leurs exigences de compétences à l'égard des personnes qu'ils ont pour mission de servir. Il faut que ce qu'on demande aux patients, aux usagers, aux participants à la recherche, ce soit quelque chose qui leur est accessible. Et peut-être une espèce de mise en garde. Je reviens sur cette idée-là. Là. Moi, il y a des choses à propos desquelles je me débrouille bien dans la vie, mais certaines autres à propos desquelles je me débrouille pas mal moins bien. Puis je pense à tantôt quand on parlait des rapports d'impôts, puis il y a d'autres aspects de la vie où je suis moins attentif, peut-être moins prévenu. Puis c'est pas une anomalie. Il n'y a pas de problème là-dedans. La réaction qu'on doit avoir par rapport au genre de chiffres que je vous montre, ça peut pas être un éloignement de ces gens-là. Il faut que ça soit, au contraire, de s'en rapprocher pour être capable de leur donner des informations à partir desquelles ils vont pouvoir exercer leur autonomie, bien sûr. C'est ça notre objectif. Alors, les capacités des personnes de santé puis les demandes du système de santé, ben voilà, c'est que les capacités des personnes à répondre aux demandes du système de santé parfois sont insuffisantes. C'est au système de santé de s'occuper, de s'assurer que la personne a compris. C'est vrai pour un médecin, pour une infirmière, une TS, peu importe, bien sûr. Le niveau de littératie et l'état de santé, ici, ça reprend cette idée que la littératie et le niveau socio-économique correspondent à l'état de santé. Là, je passe un petit peu vite mes diapos parce que je viens de regarder ma montre et puis je suis en état d'inquiétude montant là, parce qu'il y a d'autres affaires qui me semblent importantes que je vais vous dire, mais en tout cas, j'essaye de faire ça correct. Si je prends 5 minutes de plus, vu que j'ai 20 minutes de retard, je ne suis pas pire. Okay. Je te dois un café. Mais en général, elle n'est pas dure avec moi, elle est plutôt fine. Alors, c'est correct. OK. Alors, le chiffre ici, Conseil canadien de l'apprentissage, c'est absolument étonnant, mais ça correspond à l'étonnement initial. 60% des Canadiens sont incapables d'obtenir des renseignements et des services de santé, de les comprendre et d'agir en conséquence, et de prendre eux-mêmes les décisions appropriées relatives à leur santé. C'est énorme. On se douterait pas de ça. Et ça porte pas sur un des éléments, sur l'ensemble des éléments, là. Puis quand bien même le chiffre serait 63 ou 54, ce genre de constat, c'est un peu déroutant, bien sûr, mais ça nous indique qu'il faut peut-être poser la question, avez-vous bien compris, en le faisant d'une manière gentille, au sens de, ben, quand je vous explique quelque chose, peut-être que je peux être maladroit, peut-être que je manque mon coup, voulez-vous me le répéter, je vais être sûr que je vous ai bien expliqué ça. Au lieu de dire, je vais être sûr que vous avez compris, j'explique des fois mal, voulez-vous? En tout cas, il y a une façon de faire, bien sûr. Comment modifier cette réalité à moyen et à long terme? À long terme, possiblement, ben, par l'éducation meilleure, et ainsi de suite. Mais à court et à moyen terme, bien sûr, les professionnels de la santé sont interpellés. Les inégalités en santé nous indiquent qu'il y a certains groupes de Canadiens qui sont plus à risque d'être en moins bonne santé que d'autres. Vous avez une énumération ici, il n'y a rien qui va vous surprendre sur ça. Personnes âgées, les immigrants récents, les personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, les bénéficiaires de l'aide sociale, c'est juste une question de statistique. C'est Statistique Québec, Statistique Canada qui nous donne ces indications-là. Maintenant, de quoi est faite la littératie? La littératie est constituée de 4 éléments, la scolarisation, l'univers culturel, l'environnement social, puis la condition psychologique. Ces éléments-là interviennent quand vous discutez avec un participant potentiel à un projet de recherche pour lui demander d'y adhérer. Ces éléments-là continuent d'exister lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un qui est participant, qui vous donne des indications sur comment va sa participation à l'intérieur du projet de recherche, du protocole. Ils sont omniprésents. Alors, on va les voir un après l'autre, à la fois dans un contexte clinique, dans un contexte de recherche aussi. Scolarisation. Alors, ça désigne le fait d'avoir fréquenté l'école, une maison d'enseignement, et on peut présumer que quelqu'un qui est plus scolarisé sait plus lire et écrire, est capable de mieux comprendre. Illustration, je vous en donne 2. La première, qui est très, très intéressante, c'est les dépliants ou les petites feuilles, là, peu nombreuses, mais qu'on remet aux patients avant une chirurgie. Vous avez déjà lu ça? Vous vous êtes déjà tapé ça? C'est ça le vrai mot. Regardez, ben, vous le savez. Alors, OK, mais ça a une influence. Plus je suis scolarisé, plus je vais être capable de comprendre. Puis présumer que les gens lisent ça en étant un peu énervés, bonté divine. Et puis ensuite, ben, vous avez quelque chose d'autre par rapport à la recherche. Comprendre le contenu d'un dépliant qui présente un projet de recherche, qui vous invite à participer à une recherche, ben, ça peut être utile que ce soit écrit d'une manière qui fasse qu'on soit compris. L'univers culturel des gens. Alors, l'univers désigne bien sûr son milieu particulier. Je vais insister ici sur la fin là, de la diapositive. La culture peut être envisagée en référence aux traits distinctifs d'une personne par rapport à un groupe social, son langage, ses croyances, ses comportements, ses vêtements. Et ça, ça varie avec les âges de la vie aussi. Une ado rebelle qui a 14 ans, là, tu sais, l'âge difficile, Ben, quand elle va être rendue à 65, sa coiffure va avoir changé, mettons. Elle ne mettra pas les mêmes vêtements, bien sûr. Mais on a affaire à quelqu'un qui est à une certaine étape de sa vie. On tient compte de cet élément-là. Des illustrations, c'est pas compliqué, du côté de la recherche, l'alimentation d'un enfant hospitalisé, à propos duquel vous faites un protocole de recherche, s'assurer que les décisions qu'on prend dans ce temps-là sont intelligentes. Il est arrivé dans un milieu pédiatrique de la région de Québec, mais là, ça dit l'établissement, c'est pas grave. Un événement, il y a quelques années, c'était tellement amusant à observer parce que c'était une toute petite fille qui était hospitalisée. La maladie était sévère. La mère était, les parents, puis la petite aussi, bien sûr, étaient d'origine asiatique. Puis la mère avait apporté un menu qu'elle voulait donner à cet enfant-là. Puis ben là, l'équipe médicale s'était rebellée très, très rapidement. Pas question qu'on nourrisse un enfant avec tout. Mais la nutritionniste s'était donné la peine de se renseigner adéquatement. Puis quand elle est revenue à l'équipe soignante, ça a été pour leur dire, regardez, ce que la mère veut lui donner à manger, c'est excellent. Il n'y a aucune raison clinique pour qu'on ne fasse pas comme la mère le souhaite. Puis peut-être qu'ils ont appris des bonnes recettes à part ça. Tu sais, c'est à un moment donné, il faut... La notion de consentement familial, dans certaines cultures aussi, vous allez avoir besoin du consentement plus large. C'est vrai chez les Premières Nations, c'est vrai aussi... dans d'autres cultures. Maintenant, l'environnement social. Je désigne par là la communauté humaine qui entoure une personne. Ça peut être la ville, le village, ses amis, les gens qui sont proches d'eux. Des illustrations qui font que quelqu'un, sa littératie va être un peu plus élevée. Vous avez peut-être déjà observé dans les familles que quand notre père ou notre mère est malade, si on a une sœur qui est infirmière, c'est elle qui s'en occupe. Il y a des gens ici qui ont une sœur infirmière, sinon vous rigoleriez pas. Puis c'est pas vous la sœur infirmière parce que vous l'auriez pas ri du tout non plus parce que ça place sur vous la responsabilité, bien sûr. Mais qu'on soit infirmier, infirmière ou médecin, peu importe, quand on va avec nos parents chez le médecin, puis que notre père ou notre mère nous dit « je suis bien trop énervé, je comprends jamais rien », puis c'est pas si compliqué pourtant. Puis là, ben de retour à la maison, puis à la vie plus normale, la vie ordinaire, sur 2-3 jours, on répète, puis ça finit par être correct. Mais c'est parce que les gens, ils sont énervés, puis on sera pas mieux. Le point, par contre, la conséquence, c'est que ma madame, qui est très énervée parce qu'elle a Catherine, elle, sa littératie est plus élevée. Elle finit par être plus débrouillarde. Puis ça ne veut pas dire que la madame n'est pas intelligente. Je dis juste que Catherine est là, puis ça lui donne un fichu bon coup de main. Ensuite, par exemple, la compréhension d'une recherche sur les habitudes de vie. On vous explique quelque chose comme protocole de recherche qui est multidimensionnel. Ça peut valoir la peine, avant d'y adhérer, de comprendre ce dont on parle. Ensuite, la condition psychologique, bien sûr. La condition psychologique dans laquelle se trouve une personne, c'est absolument fondamental. Il y a des projets de recherche parfois à propos desquels on pourrait se questionner. Par exemple, l'annonce d'un diagnostic peu intéressant, cancer du sein, qui est suivi une heure ou deux après d'une invitation à participer à un protocole. C'est des choses qu'on voit. C'est peut-être pas très mal avisé. Ça l'est peut-être pas non plus bien avisé. C'est surtout ça, bien sûr, que je veux soulever. Il y a des manières de se comporter avec des êtres humains qui sont plus délicates, qui sont plus respectueuses, bien sûr. Ou encore la condition, un couple de professionnels de la santé, ils peuvent être deux médecins par exemple, mais à qui on dit que leur fillette de 8 ans vient d'être frappée par une voiture puis qu'ils sont aux soins intensifs. Là, médecin ou pas, le niveau de compréhension diminue. On revient toujours à cette notion-là, l'idée que la littératie dépend partiellement, bien sûr, de notre condition psychologique. Et puis finalement, le dernier exemple, qui s'apparente à des choses qu'on a déjà vues au centre-ville de Montréal, la proposition à un itinérant de participer à un projet de recherche sur la consommation de stupéfiants. Évidemment qu'ils vont se méfier a priori de ce genre de projet de recherche-là, parce que la possession, pas la consommation, mais la possession, bien sûr, est un acte criminel. Mais là, avec les nouveaux allègements au Code civil, on peut le faire d'une façon plus aisée, plus facile que... avant la modification. Les objectifs... Les objectifs... Bon, alors, les objectifs d'une manière littératie. Regardez, au lieu de faire mes diapos, je vais y aller en expliquant où je m'en vais, parce qu'il me reste 5 minutes, puis c'est important que... OK. La relation avec la dignité, c'est qu'un être humain s'est doté d'une intelligence, puis que c'est capable, bien sûr, de réfléchir, de parler, d'écrire, de comprendre. La relation de la littératie avec l'autonomie, c'est qu'un être humain a des décisions à prendre en ce qui concerne son existence et en ce qui concerne, bien sûr, les soins de santé qu'il va recevoir. Et c'est une évidence absolue que quelqu'un qui est mieux renseigné, qui comprend bien ce qu'on lui explique, est à même de prendre des meilleures décisions que quelqu'un qui n'a rien compris des explications. Ce qu'on a observé d'ailleurs dans nos travaux, c'est que les gens ont leur fierté. Puis c'est pas idiot comme réflexe, puis ils vont vous dire qu'ils comprennent, alors qu'en réalité, le niveau de compréhension est de beaucoup inférieur. Mais il y a une relation de la littératie avec l'autonomie de la personne dans ce sens-là. Je comprends, je peux prendre des bonnes décisions. Il y a une relation de la littératie aussi avec la justice dans l'accès aux services. Je comprends ma condition de santé. Je comprends les informations dont j'ai besoin, je comprends ce qu'on me raconte, puis je sais à qui je peux m'adresser pour obtenir les soins de santé. Il y a une relation donc intime, étroite, entre littératie, ma capacité de me débrouiller, et l'affirmation réelle de la justice dans mon accès aux services de santé. La loi sur les services de santé prévoit que les gens aient un accès égal aux services de santé. Ça, c'est un droit formel, c'est le droit dans la loi. Le droit réel, c'est ma capacité concrète à avoir accès aux services de santé. Et si ma littératie est tellement faible que je ne suis pas capable d'y avoir accès parce que je suis dépourvu, démuni, la justice qui est promise dans la loi ou dans une charte, cette justice-là est inopérante, c'est une justice qui n'existe pas. Maintenant, j'arrive à la conclusion de tout ça, qui est la relation entre la littératie et la participation à la recherche en relation avec l'autonomie et la justice. Puis on fait exactement le même raisonnement que pour l'accès aux services de santé et aux services sociaux. Si les gens qui m'invitent à participer à un projet de recherche se donnent la peine minimalement de me respecter, de bien m'expliquer puis de répondre à mes questions, de prendre le temps donc de s'en occuper, quand je participe au projet de recherche, ben je sais ce que je fais, je suis conscient, puis je suis encore un bien meilleur participant parce que je suis capable d'en parler avec le chercheur ou avec l'infirmière de recherche. C'est des données élémentaires. Si je comprends ce que je fais, je vais y adhérer plus que si c'est quelque chose appris par cœur ou que j'ai absolument pas compris. Dans l'énoncé de politique des trois conseils, le PTC2, que je me fais un plaisir de citer un peu plus loin, mais en tout cas, je n'irai pas dans ça, il est question de la justice. Et il est question pour les gens moins pourvus dans la société ou plus dépourvus, plus défavorisés, il est question de leur participation à la recherche à titre de quelque chose qui est valorisant. Et effectivement, ça peut être valorisant de participer à un projet de recherche, l'idée de rendre service. Et il est question aussi, en termes de justice, de l'accès aux bénéfices de la justice ou aux bénéfices de la recherche, parce que je suis assez organisé pour être capable d'y avoir accès aussi. Ça signifie que, à l'intérieur de l'univers de la recherche, une attention particulière par rapport à la littératie, c'est quelque chose qui commence à s'imposer. On n'en parlait pas il y a 20 ans ou il y a 10 ans. C'est un concept qui est nouveau. C'était quelque chose dont on parlait moins dans le temps, l'alphabétisation aussi. Puis ça fait quelque chose de plus, parce que là, il y a toutes sortes de préoccupations dont on a parlé, les normes, la formation continue. Demain, ça va être le multicentrique, là, avec les gens du ministère qui vont nous expliquer. Là, vous pouvez dire, ah, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il me semble en même temps que d'avoir comme préoccupation à l'esprit cette idée-là de littératie dans sa relation avec la dignité humaine, avec l'autonomie, avec la justice dans le contexte de la recherche, là, ces préoccupations-là, c'est vraiment pas des idioties, c'est des préoccupations qui sont fondamentales. J'insiste brièvement sur le formulaire de consentement. On le sait tous que c'est problématique. Je connais pas maintenant de propositions concrètes à vous faire pour qu'on règle ça, là, je sais pas trop comment on pourrait s'y prendre, mais on pourrait peut-être s'organiser pour en parler dans d'autres types de contextes qu'on pourrait créer. C'est une possibilité qui est réelle. Il faut qu'on avance avec cette préoccupation-là. C'est quelque chose qui est absolument fondamental en termes de participation sociale, puis de justice, bien sûr, comme préoccupation. Je vais conclure là-dessus. Très fréquemment, quand, dans un comité d'éthique de la recherche, on examine ce à travers quoi on travaille, nos instruments qui sont très, très réglementaires, Pierre a fait mention de ça ce matin, qui sont réglementaires, qui sont normés, qui sont nombreux, bien, on fait quelque chose qui est conforme à l'éthique. Il y a les principes de base qui les sous-tendent sont intéressants, je ne dis pas ça. Mais on a quelque chose de très, très fondamental, puis qui n'est pas normé, dans la préoccupation pour la littératie. C'est une préoccupation qui est très, très proche des gens parce qu'il s'agit de leur dignité puis de leur autonomie plutôt qu'une préoccupation qui serait plus éloignée sur des détails de fonctionnement de comité d'éthique de la recherche, par exemple. Alors, il s'agit de déposer dans votre esprit cette préoccupation-là. Dans les deux exposés qui vont suivre, il y a des gens qu'on est allé chercher du côté de la clinique, pas du côté de la recherche, du côté de la clinique, qui sont des championnes communicatrices, je peux le dire comme ça sans hésiter, qui vont vous parler de la communication verbale puis de la communication écrite. Comment on peut approcher ces bestioles-là pour s'améliorer? Là, ce que je viens de dire, évidemment, a déversé en elles un petit stress, là. Mais vous allez les entendre, il s'agit de personnes qui ont de la bonne information à nous donner, parce que c'est comme ça qu'on communique, par la parole avec les infirmières, les chercheurs, puis évidemment l'écrit, le formulaire de consentement. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Là, j'arrête. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ça a été un honneur de m'adresser à vous. Bon colloque.